Tant qu'on n'aura pas de précision et qu'on aura, je pense, assez rapidement, on ne peut pas savoir si c'est un accident technique, une faute humaine qui paraît le moins probable, hein, ou un attentat ou quelque chose d'imprévu qui peut être quelque chose qui n'est pas lié à l'avion, simplement quelque chose de spontané, par exemple dans une soute, une explosion d'une batterie ou quelque chose comme ça.
Que signifie le fait que la disparition de l'avion n'a été revendiquée par aucun groupe actif au Moyen-Orient, du moins jusqu'à présent?
Alors ça aussi, pour le moment, l'accident est quand même extrêmement récent, donc les revendications, quelquefois, quand il y en a, et qu'il y en aura une, ça prend quelquefois 24 heures, 48 heures, 72 heures, hein, on l'a vu dans différents cas, donc le fait qu'il n'y ait pas de revendication ne veut rien dire, et puis on peut avoir un attentat qui ne soit pas revendiqué, c'est déjà arrivé aussi.
Toutefois, le ministre égyptien de l'aviation civile a estimé hier que la probabilité d'une attaque terroriste était plus élevée que celle d'une défaillance technique. Conclusion hâtive d'après vous, ou y a-t-il quand même certains éléments qui ont pu amener le ministre à faire cette déclaration?
Alors, je pense que le ministre n'avait pas d'éléments particuliers qui est strictement lié à l'avion. Il avait sans doute des éléments que tout le monde a un petit peu en ce moment. On est dans une période où les risques d'attentats sont beaucoup plus élevés qu'ils ont pu l'être il y a quelques années. Donc, effectivement, on pense tout de suite à l'attentat quand il y a une disparition brutale. Hein, et techniquement, c'est aussi quelque chose qui est peut-être un peu plus probable qu'un problème technique survolant au cours d'une phase de vol à haute altitude.
Et surtout qu'on se souvient que la branche égyptienne de l'organisation État islamique avait rapidement revendiqué l'explosion d'une bombe en plein vol dans un avion de touristes russes au-dessus du Sinaï le 31 octobre.
Oui, mais alors là, on est aussi dans le fait que ces différents mouvements qui soient liés à l'État islamique, qui soient liés à Al-Qaïda, qui soient liés à d'autres organisations du même type, ne sont pas organisés de manière extrêmement rigoureuse. Donc les revendications, là aussi, ça, c'est l'un, c'est l'autre. On a beaucoup de difficultés à savoir qui fait quoi exactement.
Et d'après vous, va-t-on pouvoir rapidement élucider le mystère?
Alors, je pense qu'on saura très rapidement s'il y a eu quelque chose de brutal dans un premier temps. On pourra assez rapidement, je pense, retrouver les enregistreurs de vol, ce qu'on appelle les boîtes noires, hein, et savoir à peu près ce qui s'est passé. Et ensuite, là, il y a une phase beaucoup plus longue. Il faudra essayer de trouver s'il y a eu une explosion, essayer de trouver des morceaux de métal, des morceaux de l'avion qui ont été directement concernés par l'explosion, de manière à pouvoir faire des analyses chimiques qui sont difficiles après un séjour dans l'eau de mer, et faire ces analyses chimiques. À partir de ces analyses chimiques, on peut faire du travail de renseignement pour remonter un petit peu la filière. On a un phénomène, un point qui n'est pas élucidé à l'heure actuelle, c'est que l'endroit où l'avion disparaît ressemble à un endroit où il y a un début de descente, une descente lente vers l'aéroport du Caire. Donc à ce moment-là, il y a un certain nombre de, si on prend l'hypothèse de l'attentat, il y a un certain nombre de détonateurs ou de manières d'actionner un explosif qui peuvent être actionnés en fonction d'une baisse de régime réacteur ou d'une baisse de pression en cours de descente. Hein, la bombe est prévue pour fonctionner après une descente en dessous d'une certaine altitude. Donc le fait d'avoir un avion qui se met normalement en descente peut provoquer simplement un détonateur qui existe déjà.